cette parabole sur ce fils qui récupère l'héritage de son père et qui va vivre comme vivre dans la débauche, qui va gaspiller pardon tout ce qu'il a eu. Mais je voudrais m'arrêter ce matin sur l'attitude du père et parler de ce père. Et ici, dans cette image, dans cette parabole, on sait bien que le père ici représente Dieu lui-même. Dieu est notre Père céleste. Amen. Il est notre Père céleste, il est celui qui pourvoit nos besoins. Et je dirais, quel meilleur exemple que d'avoir Dieu pour Père. Que Dieu pour Père. Dieu qui est là, et même on l'a chanté dans des chants, Dieu est fidèle en tout temps. Il est celui, même quand on passe par le désert ou des temps difficiles, il est là et il pourvoit. Amen. C'est bon. Et on va faire cela, mais juste avant, je voudrais faire cette petite introduction et dire qu'on trouve du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu qui est décrit comme un père, comme je viens de le dire, qui pourvoit, un père qui est digne de ce nom. L'apôtre Jean pourra le dire dans l'Évangile que quand on l'a reçu, et là il est question de la parole de Jésus, de la parole faite chair, il nous est dit que cette parole, quand on a reçu Christ, cette révélation, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous avons pour Père Dieu, le Dieu créateur. Et bien plus que d'avoir ce Dieu créateur, ce Dieu parfait, il est notre Père parce qu'il nous a adoptés au travers du sacrifice de Christ, au travers du sacrifice de la croix. Il nous a adoptés et nous sommes ses enfants. Et quand on regarde même le ministère de Jésus, lorsqu'il était sur terre, Jésus va présenter et va amener une autre facette, une autre image de Dieu. Parce que les religieux à l'époque avaient l'idée de Dieu comme quelqu'un qui était lointain, comme quelqu'un qui était inaccessible, comme quelqu'un qui n'était finalement pas proche. Il y avait ces hommes, les souverains sacrificateurs qui eux seuls pouvaient rentrer dans la présence dans la présence de Dieu une fois par an, le jour du grand pardon, le jour du Yom Kippour, et il y avait cette image-là, et seuls eux pouvaient rentrer dans la présence de Dieu. Mais Jésus, dans son ministère sur terre, il va présenter, il va amener présenter Dieu sous un autre angle, il va amener Dieu sous un autre aspect, celle qu'il est notre Père, celle qui est que Dieu est notre Père, qu'il n'est pas ce Dieu lointain. L'apôtre Paul pourra le dire quand il parlera aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Paul parle de la part du Seigneur et il dit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Amen. Dieu est notre Père et je crois que Dieu veut être ce Père pour nous. Alors on va faire cette lecture dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, on lira toute la parabole jusqu'à la fin, et on va regarder et s'arrêter sur deux aspects que, bien sûr, on pourrait en relever plus, mais je me suis arrêté sur deux aspects que l'on retrouve sur ce père qui est présent dans cette parabole. Il nous est dit dans Luc chapitre 15, verset 1er, verset 11, excusez-moi, c'est bon, vous avez suivi. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé en bon état. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Amen. On connaît bien cette parabole, comme je disais, et c'est une parabole qu'on traite souvent dans un angle, l'angle de ce fils qui va demander la part de son héritage à son père, ce fils qui va partir loin de la maison, marre de vivre dans ce contexte, il va aller gaspiller tout ce qu'il a, il va aller il quitte la maison et il se retrouve dans une situation compliquée. Mais il y a aussi, et on parle de cette parabole dans nos messages d'évangélisation, parce que il y a la repentance de ce fils qui va revenir à la maison. Il va revenir. Et j'aimerais ce matin, non pas m'arrêter sur ce fils, mais m'arrêter sur nous focaliser sur le père de ce fils prodigue, mais aussi le père de ce second fils, qu'on voit à la fin de la parabole. Ce second fils qui est là et qui se met en colère, ce second fils qui est là et qui est jaloux, qui boude, il boude. Ce fils qui est là parce que il est en colère parce que son frère qui était parti, son frère qui était loin de la famille, va vivre comme bon lui semble et il va revenir. Il va y avoir cette fête, des honneurs qui vont être faits pour lui, parce que il y a de la joie pour le père de voir son enfant, de voir son propre fils revenir dans la maison. Mais son frère, l'aîné, va bouder. Il va être en colère. Et le premier attribut qui est au centre de cette parabole, et on le voit, c'est l'amour du Père. L'amour du Père, et je dirais que c'est un amour qui dépasse le cadre de tout ce que nous pourrons penser, de tout ce que nous pouvons exprimer. C'est un amour qui nous dépasse, parce que cet amour est un amour sans condition. Un amour, l'amour du Père qui n'a pas regardé à ce que son fils a fait. Et regardez avec moi que le Père ici aime son fils qui est parti. Il aime son fils qui va vivre loin de lui, et on le voit dans son attitude. On voit que son Père l'aime dans sa façon d'agir. Il aime ce fils prodigue. Il aime le fils qui quitte la maison, lui qui arrive et qui va faire un terrible affront. Parce que si en 2024, c'est compliqué, enfin, je ne sais pas si un jour moi je vais voir mon père, je lui dis « Papa, donne-moi la part de mon héritage. » Je pense que... Mais ici, il y a un affront qui est fait. Et même si c'est compliqué aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore compliqué. Et dans l'époque, dans le contexte même oriental, cela ne se faisait pas du tout. C'était quelque chose qui était dur. C'est comme si le fils ici ne voulait plus entendre parler de son père. C'est comme si il voulait que son père meure. Il voulait plus avoir affaire avec lui. Et on le comprend, ce fils, quand il fait un terrible affront, il y a une déchirure, c'est même un refus de l'amour de son père. Il va quitter la maison, il ne veut plus entendre parler de son père. Son père même va lui donner la part de son héritage. Il ne va pas rentrer en conflit, il va vivre, et ce jeune homme va vivre dans une vie complètement déséquilibrée, mais il va revenir à la maison. Et on voit ici que le père l'aime. Parce que le père n'était pas obligé de l'accueillir. Le père n'était pas obligé de faire tout ce qu'il a fait pour lui. Mais on voit que le père aime son fils. Parce que bien plus que de l'accueillir, le texte nous dit que comme il était encore loin, le père va le voir. Le père va voir que son fils revient, et je ne sais pas comment, mais comment le père a fait, mais il a vu son fils revenir, et le texte nous dit qu'il va se mettre à courir, il va partir chercher son fils parce qu'il aime son fils, et il veut le voir revenir. Mais je note également que le père aime ce fils qui est en colère, ce fils qui est jaloux. Il aime son fils. À la fin de la parabole, ce fils qui revient des champs, au lieu de se réjouir de voir que son frère est revenu, au lieu de se réjouir, il se met en colère. Il est jaloux. Pourquoi on fait la fête? Pourquoi on donne les honneurs à lui alors qu'il a gaspillé tout l'héritage qu'il a eu? Pourquoi on lui donne tous les honneurs? Pourquoi on lui fait la fête? Ce fils se met en colère. Alors le père, dans cette parabole, aurait très bien pu dire à son fils, bah, c'est comme ça, boude, et tu reviendras quand tu auras fini. Tu reviendras quand tu auras fini. Il aurait pu agir comme ça. Mais le père ici n'est pas dans cette attitude. Le texte nous dit que le père sort de la maison pour aller vers ce second fils. Pourquoi? Parce qu'il veut que son fils entre dans la maison et se réjouisse avec tout le monde, qu'il participe aux noces. Et dans ce texte, nous comprenons très bien que le fait que Jésus montre ici et insiste sur l'amour du Père, bien plus lorsque l'on considère le contexte de ce passage. Dans Jean 15, Jésus est en train de répondre, il va donner au travers de trois paraboles, il va donner une réponse aux pharisiens, aux hommes religieux. Parce qu'ils vont reprocher à Jésus de passer du temps avec des gens de mauvaise vie, et de passer du temps avec des gens que eux qualifient comme peu fréquentables, pas fréquentables. Mais Jésus va donner une réponse. Et il va montrer ici tout l'amour de Dieu, tout l'amour du Père. Il montre que le Père aime autant le Fils qui est dans la maison. Et ici, il y a l'image de ces hommes religieux qui sont là et qui ont toujours été dans la maison, qui étaient proches de ces chefs de la loi. Mais il montre aussi que Dieu aime ceux qui sont partis loin vivre dans la débauche. Dieu aime aussi bien les uns que les autres. Le Père aime, même si le premier fils a refusé son amour. L'amour du Père est inconditionnel. Il aime son fils et il l'attend. Il n'a qu'une aspiration, c'est que son fils revienne. Mais comme pour le second aussi, qui est en colère, le Père aspire une chose, c'est que sa colère se parte et qu'il rentre aussi et qu'il se réjouisse avec les autres. Le Père ici aime d'un amour sans condition. Et quand on regarde le contexte de ces trois paraboles, c'est aussi le cas c'est ce que l'on voit avec cette image que Jésus va prendre de ce berger. Il aime suffisamment la brebis, la centième qui est partie, qui s'est égarée, qui a quitté le troupeau. Le berger va se mettre en danger, le berger va se prendre des risques pour aller la retrouver. Et tout cela nous parle de cet amour qui est là, de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce que le berger aime sa brebis, le père aime son fils. Et permets-moi de te le dire, ou peut-être permets-moi de le rappeler ce matin. Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Et je dirais, Dieu t'aime même si tu refuses son amour. Même si tu refuses et tu es dans la même attitude que ce fils prodigue qui a récupéré ses biens et qui veut vivre loin de son père, loin de tous ses repères. Dieu, le père l'aime quand même et Dieu t'aime quand même. Et j'aimerais te dire que rien ne peut te séparer de son amour. Rien ne peut te séparer de son amour. L'apôtre Paul pourra le dire aux Romains, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, et je crois qu'il a fait le tour de tout, ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu t'aime, même si tu ne te préoccupes pas de lui, même si tu es loin de lui. J'aimerais avancer et aller plus loin en disant que son amour, bien qu'il soit sans condition, c'est un amour aussi qui offre et qui s'offre. Dans la parabole, on voit bien l'expression de l'amour du Père. Bien avant que le Fils ait pu atteindre la maison paternelle, le texte nous dit que le Père va voir son Fils. Pourquoi ? Parce qu'il l'attendait. Il était inquiet pour son Fils. Inquiet parce qu'il était parti. Et bien plus que de l'attendre, le Père, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il le voit ? Il court, il part, il agit. Il fait une partie du chemin, il se met en marche, il se met à courir au-devant de lui. Et en agissant ainsi, le Père lui facilite le retour à son Fils. Imaginez-vous un instant à la place de ce Fils qui est sur le retour, qui est là en train de marcher, peut-être hésitant. Peut-être en train de se poser toutes sortes de questions, peut-être avec des remords. Il sait que ce qu'il a fait n'est pas bon. Il sait qu'il a mal agi. Mais le Père qui le voit, il est en train de courir parce qu'il veut rencontrer son Fils, parce qu'il l'aime. Et arrivé à sa hauteur, le texte nous dit que le Père va être ému de compassion. Il le prend dans ses bras, sans aucune parole, sans aucun reproche, sans aucun échange. Le Père le prend dans ses bras et il l'embrasse. Dans le texte original, il est dit, il l'embrasse longuement. Un baiser de réconciliation qui pousse le Fils à considérer que le Père l'aime toujours, même après avoir fait ce qu'il a fait. Le Père l'aime toujours. Et à ce moment-là, le Fils peut être convaincu, il peut avoir dans son cœur l'assurance que l'amour inaltéré de son Père à son égard. Et c'est également ce qu'il fait avec le second fils. Ce fils qui est en colère, ce fils qui est jaloux. Le Père, qu'est-ce qu'il fait ? Il quitte la maison, il quitte le lieu où il y a la fête, il va vers son fils, il l'écoute. Et ensuite, il lui montre toutes les richesses. Il lui dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Il lui montre toute cette richesse qu'il a d'être dans la maison. Et il l'invite à rentrer lui aussi dans cette maison. Pourquoi ? Parce qu'il l'aime aussi. Le Père ici aime ses fils. Et je le dirais que c'est aussi le cas de notre Père céleste, qui bien plus de nous aimer, il s'est offert. Bien plus de nous aimer, il est venu, il a agi, même lorsque nous étions loin, même lorsque nous étions encore des pécheurs, il s'est offert. Il a envoyé Jésus, son propre fils, une partie de lui. Il est venu sur la terre afin de payer pour le péché de l'humanité. Et en Jésus, il nous offre quoi ? Le chemin qui nous permet de retourner vers le Père. Parce que Jésus est le seul chemin qui nous conduit vers Dieu. Jésus est le seul chemin qui nous conduit et qui nous donne accès auprès du Père. Et j'aimerais le dire peut-être à quelqu'un d'une manière un peu particulière, peut-être qui vit des temps difficiles, des temps d'incompréhension, des temps compliqués. J'aimerais te rappeler que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Dieu t'aime sans condition. Il t'aime et il a tout accompli pour que tu puisses vivre heureux. Il s'est donné. Il a donné son corps, son Christ est venu sur cette croix parce qu'il nous aime et parce qu'il t'aime. C'est un amour qui s'est donné. Mais s'il nous aime sans condition, s'il s'est offert pour nous, bien entendu, c'est une relation d'amour que le Père, ici, dans cette parabole, veut construire avec ses fils, mais c'est aussi une relation d'amour que Dieu veut construire avec nous. Qu'est-ce que le Père aspire pour son fils qui est parti, qu'il revienne et qu'il participe aux noces ? Qu'est-ce que le Père aspire pour son fils qui est en colère, qu'il revienne de sa colère et qu'il participe aux noces ? Qu'est-ce que Dieu aspire pour toi? Il aspire ton bien, mais surtout il aspire cette même réalité que le premier fils, c'est de participer aux noces. Et à quelles noces? Aux noces de l'agneau. Celle où nous serons avec le Seigneur, celle où nous allons vivre dans le ciel avec le Seigneur. Ce que le Seigneur aspire pour toi, c'est de te sauver, de sauver ton âme. Et son amour est agissant et s'offre afin que tu puisses avoir la plus grande des bénédictions, la plus grande des richesses, c'est le salut de ton âme. C'est ce qu'il essaye, ce père ici dans cette parabole, c'est ce qu'il essaye de faire comprendre à son fils qui est en colère. Qu'est-ce que le fils dit à son père? Voici tant d'années que je travaille pour toi, sans jamais transgresser tes ordres. J'ai fait beaucoup de choses, mais je n'ai jamais eu un chevreau. Tu m'as jamais récompensé. Mais le père lui dit, et veut l'amener à cette réalité, à réaliser une chose. Il lui dit, mais si tu n'as pas eu le veau gras, tu as eu le Père et tu es dans ma maison et tu jouis de mes richesses. Et ce que le Père est en train de faire comprendre à son fils, c'est que la plus grande richesse, c'est d'être auprès du Père, c'est d'être en relation avec lui. Et l'amour de Dieu s'exprime envers chacun de nous afin que nous ne soyons plus loin du Père, mais que nous soyons auprès de lui. Que nous soyons proches. J'aimerais avancer et parler maintenant de, bien sûr, il y est question dans cette parabole de l'amour de ce Père, mais j'aimerais aussi parler et voir ce point de ce Père qui pourvoit, de ce Père qui prévoit et de ce Père qui donne en abondance. Dans cette parabole, à plusieurs reprises, nous retrouvons cette idée, cette notion du Père qui donne et qui pourvoit en abondance. Comme si dans la maison du Père, il y a cette abondance. Regardez ce que le fils, lorsqu'il est parti, il va se retrouver au plus bas, il va se retrouver près des pourceaux. Au verset 17, il va se rappeler de l'abondance du pain qu'avaient non pas les fils qui étaient dans la maison, mais qu'avaient les mercenaires. Il va se rappeler de tout ce que les ouvriers avaient dans la maison. Et le fils se dit, mais eux qui pourraient être qualifiés comme des ouvriers de dernière classe, c'est mon père, ils bénéficient de l'abondance. Et dans ce texte, on voit à plusieurs reprises cette notion et cette idée que Dieu donne, que Dieu pourvoit. Lorsque le fils mécontent exprime sa colère au père, au verset 31, le père lui dit, tout ce que j'ai est à toi. Et on voit encore qu'il y a cette abondance de richesses, de biens dans la maison du Père. Mais bien plus que cette abondance de richesses pour le Père, tout est pour le Fils. Tout est pour les fils. Je remarque également que dans le retour du Fils prodigue, il y a une restauration complète qui est faite. Le Père va tout lui donner. Le Père va donner avec abondance. Le Fils revient. Le Père va dire, mais apportez la plus belle robe. Donnez une robe neuve, un vêtement nouveau, comme si c'est là pour dire, mais le passé est passé, on recommence, on prend un nouveau départ. Le Père va lui donner des souliers. Le Père va lui donner et va lui mettre un anneau qui symbolise ici cette alliance qui est renouvelé avec son père. Il y a une restauration qui est complète pour le fils. Le père donne en abondance. Il n'est pas ramené, ce fils, au rang d'un ouvrier, d'un mercenaire, mais il est ramené au rang de fils parce que le père donne en abondance. Parce que le père donne en abondance. Ce père prévoyant, celui qui pourvoit nos besoins dans toute sa richesse, c'est ce même Dieu qui nous a expliqué de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, rappelez-vous de ce passage, dans Genèse chapitre 22 au verset 14, où Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac. Abraham et Isaac vont partir, Dieu va pourvoir. Et au verset 14, Abraham va donner au lieu où il est allé le nom de Jéhovah Jiré, c'est-à-dire l'Éternel pourvoit ou pourvoira. Lorsque Dieu a pourvu à une offrande pour qu'il ne tue pas son fils Isaac. Et dans ce verset 14, La Bible nous dit que si Abraham a donné le nom de Jéhovah Jireh, aujourd'hui on dit encore qu'à la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira, c'est le Dieu qui pourvoit. On le voit dans les besoins élémentaires les plus basiques que nous pouvons vivre, mais même dans la parole de Dieu. On le voit lorsque le peuple va sortir de ce pays d'Égypte, qu'il va marcher dans le désert. Dieu ici pourvoit à l'eau, Dieu pourvoit à la manne, Dieu pourvoit aux cailles. On le voit dans ce passage où le prophète Élisée est avec une veuve et la veuve, elle n'a plus d'argent. Elle s'écroule sous les dettes. La vie de ses enfants était en danger parce qu'ils allaient être pris pour être mis en esclavage. Et cette femme est venue auprès du prophète Élisée et Élisée va lui dire de prendre tous les vases qui sont même chez ses voisins et ils vont remplir de l'huile. La Bible nous dit que jusqu'au dernier vase, il y a eu de l'huile et les vases ont été remplis, tous. Et est-ce qu'il n'y a pas ici la providence de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas ici le fait que Dieu pourvoit? Dans toute la parole de Dieu, ce Dieu qui est présenté comme le Dieu de la providence, il est ce Dieu qui est présenté comme le Dieu de la providence. Et même Jésus va le mentionner dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Il va dire « Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi les herbes des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Et au verset 32, Jésus continue et dit « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Et bien plus que de le savoir, Dieu pourvoit. Dieu donne. Il est ce Père qui donne en abondance avec largesse. Et selon la richesse, l'apôtre Paul pourra le dire aux Philippiens, Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et à l'image de ce second fils qui a reçu la parole du Père, qui lui dit « Tout ce que j'ai est à toi ». Paul nous dit dans Colossiens 2, verset 10, que nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Pourquoi ? Parce que nous sommes au même rang que le Fils. Et nous sommes héritiers du royaume et héritiers des richesses qui sont présentes dans ce royaume. Si ce Père aimant, qui nous aime sans condition, qui s'offre à nous et qui nous donne le moyen de s'approcher de lui, si c'est celui qui veut établir une relation avec nous, il est ce Père céleste qui donne en abondance. Il est ce Père céleste qui donne et qui pourvoit. Alors peut-être que quelqu'un ce matin est venu en disant « Mais moi j'ai besoin de quelque chose, je passe par des temps difficiles. » Permets-moi de te dire que Dieu est celui qui pourvoit. Que Dieu est celui qui pourvoira. J'aimerais dire, si Dieu est ce Dieu providentiel, il y a quand même une question qui se pose. Comment pouvons-nous jouir de cette providence? Comment pouvons-nous bénéficier de cet amour présent et décrit ici dans cette parabole? Mais la réponse, elle est quand même assez simple. Pour jouir de tout cela, il faut que nous soyons dans la maison. Il faut que nous soyons proches du Père. Et remarquez que l'abondance de biens semble circonscrite à la maison du Père dans cette parabole. Je m'explique, l'abondance des richesses du Père, l'abondance du pain, était présente dans la maison du Père. Mais dès que le Fils est parti de la maison, les richesses qu'il avait eues, elles ont commencé à diminuer. Et il va se retrouver avec plus rien. Il va plus rien avoir. Et cette abondance, cette image des ressources illimitées de la maison est quand même circonscrite à la maison. Et dès que l'on sort de cette maison, dès que le fils ici quitte cette maison, il a vu ses richesses diminuer jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Je note également dans le passage que l'on a lu dans le livre de la Genèse au chapitre 22, verset 14, quand il est question de, Abraham va dire « Jéhovah Jireh », Dieu pourvoit, Dieu pourvoira. Mais il est question d'un lieu, Il est dit, c'est à la montagne de l'Éternel qu'il sera pourvu. Il est question d'un lieu. Il faut être dans la maison pour jouir de la providence, de cette proximité, de cet amour et des richesses que Dieu a prévues pour nous. Il faut être en relation avec lui. Cette maison représente le lieu où le Père est. Elle représente sa présence, mais elle représente aussi le périmètre de son autorité. Quand le Fils est dans la présence du Père, il est sous son autorité. Le Fils jouit pleinement de l'abondance des providences du Père. Et j'aimerais te le dire ce matin, peut-être te le rappeler, si tu veux bénéficier de cette abondance, si tu veux véritablement recevoir tout cet amour que le Seigneur a envers toi, si tu veux recevoir ce qu'il a prévu pour ta vie, si tu veux vivre cette relation d'amour que le Père veut vivre avec toi, il faut que tu sois dans la maison. Il faut que tu sois dans sa présence. Il faut chérir sa présence. Il faut le rechercher. Et bien plus, il faut être sous son contrôle et sous son autorité. Je note que lorsque le Fils est venu voir ici son Père et qu'il lui a dit « Mais donne-moi la part de bien qu'il me revient », le Père était dans son droit de dire non. Le Père aurait pu dire non. Et par rapport à la loi de l'époque, le Père aurait sûrement dû dire non. Parce que le Père avait encore une autorité sur ses biens. Mais parce que le Père ici ne force pas, il laisse partir le Fils. Et quand le Fils a pris cette décision de partir, parce que le Père veut avoir une relation d'amour avec lui et non pas une relation autoritaire, il laisse partir son Fils. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Nous sommes face à un choix. Nous avons un choix d'être dans la maison ou d'être dehors de la maison. Nous avons le choix de profiter des richesses de la maison ou de dilapider dehors ces richesses. Le Père veut vivre cette relation d'amour. Il est ce Père qui pourvoit en abondance, mais il faut être dans la maison. Il faut avoir cette relation avec lui. Mais bien plus que d'être dans la maison, il faut aussi savoir et réaliser les richesses et les privilèges que nous avons d'être dans sa présence. À l'image de ce second fils, il est dans la maison, il travaille pour son père, mais à sa façon de parler, on a l'impression que ce temps où il a travaillé, le temps où il était là, le temps où il a travaillé pour le père était comme un temps un supplice. C'était dur, alors que le père voulait une relation d'amour. Il a fait dans l'espoir d'obtenir, alors que le père recherchait à vivre avec son fils cette relation. Le père est celui qui donne. Et je crois que lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, que nous sommes rentrés dans cette maison, que nous avons compris notre état de pécheur, que nous avons compris ce que nous étions, il y a d'abondance richesses qui sont devant nous. Mais des fois, nous sommes, et pardonnez-moi de le dire peut-être de cette manière, un peu comme des enfants gâtés. Ah Seigneur, tu donnes à lui, mais pas à moi. Ah Seigneur, tu agis pour lui, mais tu agis pas pour moi. Et des fois, on est comme ces enfants gâtés. Mais le Seigneur nous invite à réaliser toutes les richesses qu'il y a dans sa maison. Le Seigneur nous invite à rechercher non pas ce qu'il peut nous donner, mais à ce qu'il peut être pour nous. Il veut vivre une relation dans les deux sens. Il veut qu'il y ait cette relation, cet échange, plutôt qu'une d'une relation qui est dans un sens unique. Où on vient et on appuie un peu comme sur le distributeur divin et on attend que la bénédiction arrive, qu'on attend que la bénédiction arrive. Alors je vais terminer en disant que Dieu est ce Père aimant. Il nous a aimés le premier. Il s'est offert et il attend que nous puissions l'aimer en retour. L'aimer, c'est être dans sa présence. Aimer, c'est avoir cette relation avec lui. Aimer, c'est être sous son contrôle. Aimer, c'est lui obéir. Le Seigneur est notre Dieu qui donne en abondance. Il pourvoit, il prévoit, même au-delà de tout ce que l'on peut penser et imaginer. Dieu a pourvu pour que notre relation avec lui soit restaurée. Il a offert Jésus en sacrifice pour pouvoir vivre cette relation et restaurer ce qui a été brisé par le péché, pour pouvoir rétablir cette relation. Il est celui qui pourvoit aussi à tous nos besoins. Et peut-être que ce matin, tu es venu avec un besoin. Peut-être que ce matin, tu es venu dans des difficultés. Mais j'aimerais te dire que notre Dieu, que ton Dieu est celui qui pourvoit. Qu'il est un Père céleste qui prend soin de ses enfants. Paul le dira, Dieu parlera au travers de la bouche de Paul, on l'a cité tout à l'heure, « Je serai pour vous un Père ». Le Seigneur veut être un Père. Il a tout payé pour ça. Ce Père est au-dessus de toute caractéristique humaine, de toute idée, conception qu'on peut avoir d'un Père. Peut-être qu'on a été déçu par un Père, parce qu'un Père a été absent, parce qu'un Père humain n'a pas été présent. Peut-être qu'on a une image faussée, négative de qui est du Père. Mais Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tous ces raisonnements que l'on peut avoir. Dieu est ce divin créateur. Il est celui qui veut vivre cette relation avec toi. Mais pour cela, il faut être en Jésus-Christ. Il faut être recouvert par le sang de Christ. Alors, nous avons tous et toutes des différents, peut-être, besoins. Le Seigneur, de dire peut-être, Seigneur, j'ai besoin de vivre cette relation avec toi. Le Seigneur a déjà préparé d'avance des projets merveilleux. Il a préparé des choses belles. Et on a peut-être besoin de dire, Seigneur, moi j'ai envie de vivre cela. J'ai envie de vivre ce que tu as préparé pour moi. Alors ce matin, voulons-nous nous approcher de ce Père divin? Voulons-nous rechercher sa face? Voulons-nous peut-être revenir et réaliser qu'on s'est peut-être éloigné, même si on était peut-être présent? Vous savez, ce fils, le second, qu'on trouve dans la parabole, il n'était pas dans la maison, mais il était à côté. Et il ne bénéficiait pas des richesses qui étaient dans la maison. Et peut-être qu'être à l'extérieur, être loin, fréquenter, mais sans vraiment prendre position, on peut être dans cette même état que ce fils. Ne pas bénéficier, ne pas jouir de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alors est-ce que nous voulons rechercher sa face ce matin? Entrer dans sa présence, entrer dans ce qu'il a prévu pour nous, pour que nous puissions recevoir ses projets, recevoir cette bénédiction. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier, Seigneur, parce que ta parole, elle est là pour nous instruire, elle est là pour nous reprendre, elle est là pour nous enseigner. Et Seigneur, on veut te dire merci, parce que Seigneur, au travers de cette image, au travers de cette parabole, Seigneur, nous voyons tout l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Tu es un Père, mais tu es même un Père qui dépasse notre propre définition du Père humain. Tu es un Père qui voit au-delà de tout, un Père qui pourvoit. Et Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, rentrer pleinement dans ce que tu as prévu pour nous. Et pour cela, nous avons peut-être besoin de revenir à toi. Peut-être que ce matin, Seigneur, nous avons besoin de retrouver cette relation qui a peut-être été brisée. Peut-être que nous avons besoin de réaliser tout à nouveau le privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Seigneur, je te demande encore de bénir chacun. Et Seigneur, tu vois, celui ou celle qui est peut-être venu ce matin avec toutes sortes de questions, avec des besoins aussi bien physiques, mais même des besoins intérieurs, des besoins dans l'âme. Seigneur, tu es celui qui peut répondre et qui veut répondre. Alors Seigneur, donne à celui ou à celle qui en a besoin. À toi la gloire, Père. Amen.